Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte une affaire criminelle de 1995, l'affaire Victorska. Un assassinat absolument unique, puisqu'il a été commis en s'inspirant d'un épisode de Columbo. Si, si. Mais comme dans Columbo, le stratagème a été déjoué. C'est une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Nous voilà le 14 juillet 1995, un dimanche, dans la région de Sarcelles, au nord de Paris. Nadège Witkorska est chez une amie, et normalement son mari Jean-Bernard doit la rejoindre. Ils ont prévu d'aller voir le feu d'artifice ce soir. Mais pas de Jean-Bernard. Oh ben je comprends pas. On a déjeuné ensemble. Il est rentré se reposer un peu à la maison. Il devrait être là. Elle appelle le fixe de leur appartement de Sarcelles. Une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Pas de réponse. Oh ben là, je comprends pas. Hein. Ça commence à devenir inquiétant, non? Faut qu'on aille voir à la maison ce qui se passe. C'est pas normal qu'ils répondent pas. Les deux femmes arrivent en bas de l'immeuble de Sarcelles. Ça a l'air éteint. Je vois pas de lumière. On monte. Elles montent. Elles entrent. JB? JB, t'es là? Pas la moindre réponse. Elles font le tour de l'appartement et c'est la copine qui pousse la porte de la chambre.
Oh! Mon Dieu!
Jean-Bernard gît inanimé sur son banc de musculation, une grosse haltère en travers de la gorge. La copine s'approche, elle lui prend le pouls. Il est mort. Et Nadège, sa femme, se met à pousser des hurlements. Elle est dans des tas de choc, impossible de la calmer. C'est la copine qui appelle les pompiers, qui sont là 9 minutes plus tard. Et ce sont eux qui enlèvent l'haltère qui repose sur sa gorge. Il confirme que c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Et un médecin vient constater le décès.
C'est un arrêt cardiaque, je pense. Il a dû faire un infarctus en faisant sa musculation. Du coup, il devait être en poussée, il a lâché son haltère. Il est venu s'écraser sur sa gorge.
Et donc sur le certificat de décès, il écrit « mort accidentelle ». C'est un accident idiot. La faute a pas de chance. Nadège et Jean-Bernard ont 2 enfants en bas âge, Romain et Benjamin, qui sont en vacances chez des amis. Nadège doit maintenant leur annoncer la nouvelle. Leur papa est mort.
Allô? Oh mon petit chéri. J'ai une bien triste...
Et on organise les funérailles. Normalement, mon histoire s'arrête là. Mais en principe, les accidents, n'est-ce pas? C'est pas mon truc. Trois jours plus tard, le téléphone retentit au 36 quai des Orfèvres à Paris, siège de la police judiciaire. L'inspecteur de permanence décroche, à l'autre bout du fil, une femme.
Allô? Bonjour, inspecteur. J'ai des révélations à vous faire sur la mort d'un homme.
Oui, d'accord. Vous pourriez peut-être me donner votre nom?
Non, je peux pas. Je veux rester anonyme.
Bon. Entendu, de quoi s'agit-il, madame?
C'est à Sarcelles. Un homme est mort il y a 3 jours.
Un homme? Vous avez son nom?
Jean-Bernard Witkorska. On a cru que c'était un accident cardiaque, mais c'est un assassinat, inspecteur. C'est sa femme qui l'a tué avec son amant. Et traînez pas, ils vont incinérer le corps.
Ah, un assassinat. Là, c'est mon rayon. Ça serait donc sa femme, avec son amant. Le 36 quai des Orfèvres fait passer l'info à la police judiciaire de Versailles, qui commence par appeler le commissariat de Sarcelles pour savoir si un certain Jean-Bernard Witkorska est bien mort le 14 juillet.
Vitkorska, vous dites? Voyons, voyons. Oui? Oui, je confirme, un décès par infarctus.
Ils appellent ensuite les pompes funèbres.
Ah, écoutez, la crémation doit avoir lieu aujourd'hui.
Aujourd'hui? Faut pas traîner. Et donc les flics de Versailles foncent au crématorium de Gonesse, et quand ils arrivent, les employés des pompes funèbres sont en train de terminer la mise en bière.
Stop! Stop, on arrête tout. Hein? On a un mandat de justice, nous voulons récupérer le corps pour une autopsie.
Ils prennent un risque, hein. La femme au téléphone a peut-être raconté n'importe quoi. N'empêche que les obsèques sont reportées. Alors il y a toujours un peu d'embouteillage, hein, pour les autopsies en région parisienne. Et donc en attendant les résultats, les policiers se rencardent sur l'entourage de ce Jean-Bernard Vitkorska. Et le 20 juillet, ils prennent sa femme Nadège en filature jusqu'au 18e arrondissement de Paris. Elle se gare, elle entre dans un immeuble, ils se mettent en planque, et ils n'attendent pas longtemps. Hein. Quelques minutes plus tard, ils voient sortir un homme de l'immeuble qui s'installe au volant de la voiture de Madame Vitkorska. Ils démarrent, ils le suivent. L'homme a l'air sur ses gardes, il jette des coups d'œil inquiets à son rétroviseur. C'est trop risqué, il décide de le laisser filer. Et il retourne planqué devant l'immeuble. Une heure plus tard, il voit l'homme revenir, il se gare, il entre dans l'immeuble. Et là, il passe à l'action. Ils entrent à leur tour dans l'immeuble, ils trouvent l'appartement et ils sonnent. Ils ont en face d'eux l'homme, la femme et une autre jeune femme.
Bonjour messieurs, dames. Police nationale, est-ce que vous pourriez nous présenter vos papiers d'identité, s'il vous plaît?
Et là, l'homme leur tend une carte d'identité au nom de Jean-Bernard Vitkorska.
C'est votre nom?
Oui, je suis le mari de madame.
Et le pire, c'est qu'il ne ressemble pas du tout à la photo de la carte d'identité.
Ok, on vous embarque tous les trois. Daté de cet instant, vous êtes tous les trois placés en garde à vue.
Et voilà donc les trois zozos, chacun dans un bureau à la PJ de Versailles. La jeune fille qui était avec eux s'appelle Elisabeth Tourteau, c'est la locataire de l'appartement, et elle est relâchée assez rapidement. Passons à Nadège Vitkorska.
Alors madame, est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps du 14 juillet s'il vous plaît, c'est-à-dire le jour où votre mari est retrouvé mort?
Ben, j'ai déjeuné avec lui. On s'est quitté vers 15h, je suis allé chez une amie. Et puis après, on l'a retrouvé mort à la maison en fin d'après-midi.
Et le monsieur, alors?
Vous ne vous appelez pas Jean-Bernard Vitkorska, n'est-ce pas?
Non. Je m'appelle Jean-Stéphane Sesley.
Votre âge?
J'ai 36 ans.
Et là, les policiers passent son nom au fichier.
On comprend mieux pourquoi il n'a pas décliné sa véritable identité.
Il est recherché depuis 6 mois. Un jour, il n'est pas rentré à la prison où il purgeait une peine de 6 ans pour trafic de drogue.
Et comment vous retrouvez-vous, monsieur, à utiliser les papiers de monsieur Vitkorska?
Bah, je le connaissais. Je l'ai lui volé il y a 6 mois, comme j'étais en cavale.
Le casier de ce monsieur Sesley est épais comme la Bible. Recel de détention d'armes, trafic de stupéfiants, tentative de vol à main armée, proxénétisme, pas mal, hein? Il ne lui manque que le meurtre au palmarès. Depuis sa naissance, le type a passé plus de temps en prison qu'en liberté.
Qu'en est-il de votre relation avec Madame Vitkorska, monsieur Sesley?
Oh, on se connaît depuis tout petit, quoi. On a grandi ensemble. On a même eu une amourette quand on était ado.
Et plus récemment?
Bah, quand je me suis mis en cavale il y a 6 mois, j'ai repris contact avec elle. Et on est retombé amoureux fou, quoi. On est fait l'un pour l'autre, vous comprenez?
On comprend. Mais l'un pour l'autre, jusqu'à quel point?
On
On vient de recevoir les résultats de l'autopsie, réalisée à Garches. Jean-Bernard Witkorska a eu le larynx brisé, broyé. Mais ça ne correspond pas du tout à la chute d'une haltère, même lourde. On a appuyé sur la barre, on l'a étranglé avec la barre de son haltère. C'est un assassinat. Mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'alcool dans le sang de la victime, et pas qu'un peu. Et puis il y a aussi du rohypnol, un sédatif puissant à forte dose. Tellement forte que mélangé à l'alcool, ça a pu le plonger dans le coma. Quand on l'a étranglé, il était dans le coltard. Et donc les policiers retournent voir les deux zigotos, toujours en garde à vue, avec en main les résultats de l'autopsie. En commençant par Nadège, parce que l'autre connaît la musique de la garde à vue. Il sera forcément plus coriace. Alors que Nadège, c'est la policière Aurore Piana qui s'y colle. Et avant d'aller nous asseoir dans un coin de la salle d'interrogatoire, il faut que je vous en raconte une bien bonne. Cette histoire d'homme étranglé par son haltère, alors qu'il fait sa muscu. Eh bien, la policière, ça lui rappelle quelque chose, figurez-vous. Car elle est fan de la série Columbo. Et justement, il y a quelques semaines, elle a vu un épisode de Columbo intitulé « Exercice fatal ». Elle s'en souvient très bien, hein ? Dans cet épisode, un homme meurt écrasé par son haltère. Au début, on croit que c'est un accident. Et c'est un assassinat. Alors qui des deux, Nadège Witkorska ou Jean-Stéphane Sesley, a vu cet épisode de Columbo et s'en est inspiré ? Votre mari, madame, a été assassiné. Nous en avons la certitude. Un commentaire ?
Je vais vous dire toute la vérité sur cette affaire. C'est Jean-Stéphane qui a eu l'idée de supprimer mon mari. L'idée, c'est lui. Moi, je l'ai juste laissé faire.
Ça serait donc lui. Et pourquoi l'avez-vous laissé faire, madame ?
Mon couple battait de l'aile. Jean-Bernard avait plus de tendresse pour moi. Il était tout le temps pris à son travail. Il me faisait vivre en enfer.
La vie avec votre mari était difficile.
Plus que difficile. Il était devenu invivable. Il était alcoolique. Il était violent avec moi. C'était plus supportable.
Et Jean-Stéphane Sesley dans ce contexte, madame ?
Eh bien, il m'apportait justement tout ce que mon mari ne m'apportait plus.
La policière lui demande de raconter comment ça s'est passé, ce qu'elle sait de l'assassinat de son mari.
Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui s'est passé avant. Moi, j'étais pas là quand ça s'est passé.
Elle raconte que ils ont choisi le 14 juillet parce que les enfants n'étaient pas là.
On a invité Jean-Stéphane à déjeuner. Il se connaissait bien avec mon mari. Et puis, Jean-Stéphane l'a fait boire. Remarquez, c'était pas difficile. Il en redemandait. Il a glissé le somnifère dans un verre. Après, je sais pas, je suis parti chez mon ami. C'est lui qui a... Enfin, j'étais pas là, quoi.
Bon, et si on allait voir ce qu'il en dit, lui ? Comme prévu, c'est un coriace.
On n'a tué personne. Ni moi, ni Nadège. On n'y est pour rien.
Pourtant, Nadège, qui est interrogée en ce moment, affirme que l'auteur de ce meurtre, c'est vous. Et elle précise la préméditation, elle explique la motivation. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça ?
Bah, je sais pas. Elle a eu peur. Elle a peut-être fait ça avec quelqu'un d'autre. J'en sais rien, moi. Je vois un avocat.
Tout ce qu'il consent à reconnaître, c'est qu'il a bien déjeuné chez les Witkorska le 14 juillet.
Mais d'ailleurs, Jean-Bernard a été odieux pendant le repas. Je suis parti avant le dessert.
Vous dites qu'elle est restée seule avec lui.
Bah oui. Quand je suis parti, elle est restée seule avec lui.
«
On se retrouve donc avec deux versions contradictoires. Pour elle, c'est lui, pour lui, c'est elle. Bon, on est au tout début de l'enquête, hein. Ce sera à l'instruction de les départager et de dire qui a vu l'épisode de Columbo et l'a reproduit. En attendant, à la fin de la garde à vue, ils sont mis en examen tous les deux pour assassinat et écroués. Une juge d'instruction du tribunal de Pontoise est alors désignée. Et quand elle ouvre le dossier, elle s'étonne du manque de preuves matérielles. C'est bien joli cette histoire de Columbo, mais il faut plus que ça. Et donc elle demande entre autres qu'on réentende la jeune femme chez qui les deux tourtereaux ont été arrêtés. Vous vous souvenez? Elisabeth Tourteau. Est-ce qu'on ne l'a pas relâchée un peu trop vite, celle-là? Hein? Et revoilà donc Elisabeth Tourteau, la copine chez qui le duo a été arrêté, face aux policiers. Comment connaissez-vous Monsieur Cézelet, mademoiselle?
Ben, je l'héberge, depuis qu'il est en cavale.
Gratuitement? Vous faites ça gratuitement?
Si, oui. Enfin, il me donne un peu de drogue.
Quelque temps plus tard, en lisant le procès-verbal, la juge se dit: est-ce que ça serait pas elle, le corbeau, l'appel anonyme qui les a dénoncés? C'était une voix de jeune femme. Elisabeth Tourteau a 30 ans. Et donc elle la convoque à nouveau dans son cabinet, et elle fait bien, parce que c'est elle. C'est bien elle qui a passé le coup de fil anonyme. Et puis surtout, elle a recueilli les confidences de Cézelet.
C'était le lendemain, le 15 juillet. Il m'a dit « J'ai tué Jean-Bernard ». Il m'a dit « Ça a été long ». Il m'a même dit « Les salauds mettent toujours du temps à mourir ».
Elle raconte aussi qu'avant, bien avant le meurtre, un jour Cézelet était chez elle, et elle a reçu un appel d'un de ses amis qui est cardiologue à Marseille.
Et là, Jean-Stéphane, il m'a fait signe qu'il voulait lui parler, alors je lui ai passé. Il s'est fait passer pour un scénariste de cinéma. Et il lui a demandé quel était le bon moyen d'éliminer quelqu'un.
Et vous avez entendu ce que votre ami cardiologue a répondu?
Oui. Oui, il a parlé d'une piqûre de chlorure de potassium, je crois. Il lui a dit que ça provoquait un arrêt cardiaque immédiat et que c'était indétectable dans les urines. Mais que ça laissait évidemment une trace de piqûre, quoi. Et Jean-Stéphane, pendant la conversation, il a noté tout ça sur un bout de papier.
Un bout de papier? Eh ben voilà un élément à charge. Il faut le retrouver, ce bout de papier. Et la juge n'a pas à le chercher bien loin. Il était dans la sacoche de Cézelet qui a été saisie par les policiers. Et donc, ils le sortent, ils le regardent en détail. Dessus sont écrites et les questions et les réponses. Le temps qu'il faut pour mourir, les traces que ça laisse, les conclusions éventuelles en cas d'autopsie. C'est la preuve que Jean-Stéphane Cézelet a prémédité le crime. Alors la juge en parle bien sûr à Cézelet, qui est toujours aussi retors.
Mais je vous dis que je travaille à l'écriture d'un roman. Un roman policier. C'est pour ça que j'ai posé ces questions à ce docteur. Et que j'ai écrit les réponses sur ce papier.
Mouais, mouais, mouais. Les mois passent, les auditions se succèdent, et Jean-Stéphane Cézelet finit par reconnaître qu'il a bien élaboré cet assassinat avec la complicité de Nadège Witkorska, que c'est dans ce but qu'il a interrogé le cardiologue.
Mais du coup, j'ai renoncé. C'était trop risqué, beaucoup trop risqué. Mais oui, oui, je vous confirme que ça m'a traversé l'esprit.
Un pas en avant, un pas en arrière. Mais c'est long, une instruction. Cézelet revient plusieurs fois dans le bureau du juge.
Dites-moi, monsieur Cézelet, vous aimez Columbo, l'inspecteur Columbo?
Ah, j'adore, madame le juge.
Eh bien, nous pensons que vous avez été inspiré d'un épisode de Columbo. Exercice fatal.
Et là, il reconnaît qu'il a vu l'épisode en question. Qu'il s'est dit, c'est le crime parfait. Et qu'il s'en est inspiré pour préparer le meurtre de Jean-Bernard Witkorska. Mais il n'est pas allé au bout, hein. C'est ce qu'il dit. «
Et maintenant, il faut éclaircir un petit mystère, la cerise sur le gâteau de cette histoire incroyable. Depuis le début, la juge et les policiers se demandent pourquoi et comment il y avait un banc de musculation chez les Victorska. Car tout le monde le dit, Jean-Bernard ne faisait pas de musculation, ça n'était pas du tout son genre de soulever de la fonte à la maison, du tout. Eh bien, figurez-vous que Sesley a convaincu Nadège de lui offrir un banc de musculation pour la fête des pères. Si, si, et détail sordide, ce sont leurs propres fils, 3 ans et 7 ans, qui, le jour de la fête des pères, lui ont offert la bouche en cœur, l'arme du crime. C'est machiavélique. Et quand Jean-Bernard reçoit le cadeau, il aurait dit « Oh ben ça tombe bien. Le médecin m'a recommandé de faire de l'exercice. » À ce stade, vous noterez que Jean-Stéphane Sesley a reconnu qu'il avait préparé le meurtre, pensé le meurtre, que Colombo est son inspirateur. Mais il n'a pas dit qu'il avait commis le meurtre. Et d'ailleurs, lors d'un dernier rendez-vous chez la juge, je suis resté 2 heures dans l'appartement pour savoir ce que j'allais faire. Et puis au bout de 2 heures, je suis parti, j'ai laissé tomber. Mais depuis sa prison, il commet des imprudences. Il écrit à Nadège et les lettres sont interceptées. J'ai accompli les actes parce que je t'ai cédé pour te faire plaisir. On n'avait pas d'autre solution si on voulait vivre tranquille. Tu as fini par me piéger. J'ai craqué devant ta détresse. Ce qui revient à signer des aveux. L'instruction est terminée. Elle a duré 3 ans. La juge a maintenant une idée précise de ce qui s'est passé le 14 juillet 1995. Et voilà donc le scénario retenu par la juge. Le 14 juillet, Jean-Stéphane Sesley entraîne son camarade Victorska dans une tournée des bars.
Hey, de Ricard, s'il vous plaît.
Évidemment, c'est Sesley qui rince. Aux alentours de midi, les deux compères sont de retour à l'appartement des Victorska. Jean-Bernard est saoul comme un cochon. Au milieu du déjeuner, Sesley glisse du rohypnol dans un verre de rosé.
À la tienne, Jean-Bernard!
Quelques minutes plus tard, Jean-Bernard Victorska s'endort dans son assiette. Sesley le transporte jusqu'à la chambre, il l'allonge sur le lit, il le change pour le mettre en tenue de sport. Et pour parfaire son alibi, Nadège quitte l'appartement vers 5h30. Et vous savez qui est la copine chez qui elle va passer la fin d'après-midi? La mère de Jean-Stéphane Sesley. Pendant ce temps, Sesley est seul dans l'appartement. Il étrangle Victorska avec la barre d'haltère. Et il téléphone à Nadège.
Allô? Nadège? C'est bon, c'est fait.
On a la trace de l'appel. Et puis, aux alentours de 19h30, Nadège commence à faire son cinéma et elle s'inquiète.
« Mais je comprends pas. On a déjeuné ensemble. Il est rentré se reposer un peu à la maison. Il devrait être là. »
Elle passe 5 coups de fil chez elle et elle finit par convaincre son amie de l'accompagner sur place. Une fois dans l'appartement, elle s'arrange pour que ce soit elle qui découvre le corps. Et après, elle joue la veuve éplorée. Et quand le médecin signe le constat de décès accidentel, ils sont convaincus tous les deux d'avoir commis le crime parfait. Voilà le scénario retenu par l'instruction. Reste le mobile. Nadège Witkorska dit que son mari était alcoolique et violent. Bah, ça n'est confirmé par personne, ni par les proches, ni par les enfants. Non, le vrai mobile, c'est l'argent, bien sûr, comme toujours. Nadège touche une assurance vie de 535 582 francs, 81 000 euros. Nadège et Jean-Stéphane voulaient refaire leur vie. Il semble qu'ils avaient en projet d'ouvrir un bar au Mexique. Ça ne dit toujours pas qui est le cerveau du plan. Alors que disent les experts psychiatres? Eh bien, ils disent que Sesley est un sociopathe, froid, calculateur, manipulateur. Alors que elle, Nadège, est une femme soumise, dépressive, fragile.
Elle a le profil d'une suiveuse. Elle s'est fait entraîner. Et donc, à la fin de l'instruction, Nadège Victorska est renvoyée devant la cour d'assises pour complicité d'assassinat et Jean-Stéphane Cézelet pour assassinat. Le procès a lieu en octobre 2000 devant la cour d'assises du Val-d'Oise à Pontoise. Et dès l'ouverture, la présidente annonce qu'un témoin clé ne sera pas là. Elisabeth Tourteau. Elle s'est suicidée quelques jours plus tôt. Parce que depuis qu'elle avait dénoncé le duo, elle vivait dans la peur. Elle recevait des menaces par téléphone, par courrier. Elle s'est fait agresser dans la rue. On l'a rouée de coups. Et on peut imaginer que c'est Cézelet qui a commandité tout ça depuis sa cellule de prison. Et à la fin, les jurés retiennent le scénario de l'instruction. Jean-Stéphane Cézelet est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté et Nadège Victorska prend 13 ans pour complicité. Lui fait appel et il prend la même peine 3 ans plus tard. Nadège sort de prison en 2007. Vous imaginez bien que ses fils lui en veulent. C'est pas simple. Quelques semaines plus tard, elle se suicide chez l'un de ses fils en avalant des médicaments. Et Cézelet se suicide lui aussi en prison en 2010. 4 morts donc dans cette affaire, alors qu'il eût été si simple de divorcer. Voilà donc pour cette histoire. Alors je vous ai parlé de Aurore Piana, qui était à l'époque inspectrice de police à la police judiciaire de Versailles et qui a eu cette intuition concernant Colombo. Elle est là au téléphone. Alors avant que vous nous racontiez, vous êtes aujourd'hui commissaire et d'ailleurs vous célébrez vos 30 ans de police. Avant que vous nous racontiez comment vous avez fait le lien avec Colombo, peut-être un mot sur cette issue extrêmement rare, c'est-à-dire que tous les protagonistes de cette histoire se sont suicidés. Est-ce que ça vous a surpris, ça, à l'époque ?
Oui, tout à fait. C'est certain qu'une affaire comme ça, dans sa carrière d'investigation policière, c'est assez rare. Et d'avoir cette fin qui est quand même assez tragique, hein, je veux dire que tout le monde s'enlève la vie, en fait. Hein, on est sur 3 suicides pour des raisons différentes. C'est vraiment quelque chose d'un petit peu d'extraordinaire.
Est-ce que ça colle avec les gens que vous avez eus en face de vous au cours de cette enquête ? Est-ce qu'ils avaient ce profil, cette fragilité ?
S'agissant de notre témoin, Elisabeth Tourteau, c'est certain qu'elle était quelqu'un quand même de fragile et on a vraiment déploré son décès parce que Cézelet en est en partie responsable, hein, puisqu'il avait lui fait subir des menaces et puis de représailles lourdes pendant au cours d'instruction et qui l'a conduit à ce geste ultime. Et c'est vrai que c'était quelque chose de dramatique pour nous. Concernant les autres protagonistes, je serais plus surprise de la fin de M. Cézelet, finalement, puisque c'était quand même lui qui avait une assurance dans la personnalité qui ne nous laissait absolument pas penser qu'il pourrait avoir ce geste ultime.
Il ne présentait pas de fragilité, quoi. C'est une surprise.
Ça a été une surprise, je pense, pour nous, oui, enquêteurs. Parce qu'il a été d'une certaine froideur et d'une certaine distance, bien campé sur ses positions pendant tout le temps de l'enquête de flagrance et puis après au cours de l'instruction. Et ce n'est pas une issue qu'on aurait envisagée.
Ce coup de génie que vous avez eu, c'est le fruit du hasard? C'est-à-dire, vous regardez l'épisode de Colombo par hasard ou vous êtes vraiment fan de Colombo?
Disons un petit peu les deux. Colombo, ça fait partie de mon enfance et de ma culture policière, je dirais. C'est ce qui a bercé mes années d'investigation judiciaire en police criminelle. Et je pense que c'était quand même, j'en étais assez fan dans sa technique en fait d'enquête. Hein. C'est quelque chose qui... Colombo, en fait, on avait le meurtre et on savait qui était l'auteur et on remontait dans le temps. Et c'était assez novateur, en fait, dans la façon d'exprimer les enquêtes, en fait.
Je suis assez surpris parce que je pensais que, franchement, un officier de police ne regardait jamais de films policiers, tant le récit policier était éloigné souvent de la réalité.
Cette affaire nous fait mentir, hein, Christophe, hein, puisqu'on avait quelqu'un qui, la fiction s'est rapprochée de la réalité totalement. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le cours de l'instruction, en fait, on cherchait la façon d'avoir travaillé, effectivement, vous l'avez dit, sur la préméditation, M. Cézelet, et il a recherché, en fait, le meilleur scénario. Et effectivement, quand on est tombé, enfin quand moi je suis personnellement tombée sur ce lien avec cette émission télévisée, cet épisode, je me suis carrément dit, il nous l'a fait, parce que ça me semblait tellement incroyable qu'on puisse, au vu des émissions de télé, en fait, le reproduire dans la réalité. C'est la seule fois que j'ai connu ça de ma carrière.
Alors j'imagine que les gens qui nous écoutent se posent la question, jusqu'à quel point est-ce que les deux crimes se ressemblent? J'ai retrouvé donc cet extrait de cet épisode de Columbo.
Je présume que vous connaissiez Monsieur Jean Stafford.
Connaissiez?
Oui, monsieur, le pauvre homme est mort.
Oh non!
Tout ce qu'on sait, c'est qu'il travaillait avec une grosse haltère et qu'il a pu s'évanouir ou glisser simplement. Mais la barre lui a écrasé la trachée artère.
Oh mon Dieu!
Alors, je suis vraiment navré.
Voilà la voix de Peter Falk. Jusqu'à quel point est-ce que les deux crimes se ressemblent, celui de Columbo et celui de Sesley et Madame Victorska?
Je dirais que c'est uniquement vraiment sur le mode opératoire, le banc de musculation avec l'utilisation de la barre sur la trachée, où là on a effectivement, ils en concluent, comme il dit très bien, soit un évanouissement, un arrêt cardiaque, c'est exactement ce qu'a conclu le médecin légiste. On n'arrive pas, nous, à élucider le dossier de la même façon que Columbo, qui, lui, rebondit sur un lacet qui est fait à l'envers, si vous vous souvenez bien. Nous, ce n'est pas ce qui nous fait déterminer que ce sont eux les auteurs, en fait. Hein. C'est, dans la réalité, c'est pas, ça n'a pas été comme ça.
Il y a des choses à apprendre pour une policière chez Columbo?
Ah oui, c'est quelqu'un qui a une pugnacité dans le travail. Il insiste, il revient, il va en arrière, il prend tous les petits. Moi, j'adore cette façon qu'il a d'arriver sur une scène de crime et de tout observer. Tout élément, en fait, est porteur pour lui d'un début de résolution d'enquête. Et c'est vraiment cet environnement vaste qu'il a. Je pense que c'est ce que j'ai, moi, appliqué dans mon travail aussi de policier. Voilà, et après, il ne lâche pas ses témoins. Il ne lâche rien jusqu'au bout, il va jusqu'au bout du bout. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, parce que je pense que je fonctionne comme ça, moi.
Les deux protagonistes de cette affaire, vous les avez vus, vous les avez rencontrés, moi pas. J'ai toujours du mal à me faire une idée de ce qu'ils sont. Est-ce qu'il s'agit d'idiots ou de gens futés ?
Concernant Nadège, je pense que c'est une femme qui était dans la souffrance, hein, qui a imaginé avoir une vie meilleure avec quelqu'un d'autre. Je pense sincèrement qu'elle était dans cette dynamique-là, et elle est tombée sur ses idées, du coup, qu'il a manipulé, je pense, et qu'il y avait un esprit beaucoup plus machiavélique. Hein. C'était quand même quelqu'un qui était connu des services de police, qui avait quand même du grand banditisme. Donc je pense que lui, il était là-dedans. Et elle a vu quelque chose de nouveau arriver, un amour et une nouvelle vie, sans en mesurer forcément les conséquences. Parce que je pense que là, elle a perdu le sens du fait qu'elle soit maman, qu'elle ait des enfants. Quand même, son mari, c'était quand même pas non plus le monstre. Et je crois que là, ça a été difficile quand elle a été confrontée à la vraie réalité, de dire que oui, elle était bien complice d'un meurtre.
C'est Madame Bovary qui s'ennuie et qui trouve quelqu'un qui, d'un coup, exalte sa vie et qui le suit sans réfléchir, sans mesurer.
Oui, moi, c'est ce qu'elle m'a inspiré tout au long des auditions que j'ai faites, qui ont été longue et un petit peu difficile, et je suis rentrée dans l'empathie avec cette dame, parce que je pense qu'elle avait des choses à dire. Pour autant, elle n'a pas forcément tout expliqué, mais elle a quand même expliqué ce qu'elle a vu au mieux qu'elle a pu, et elle a après été dépassée. Mais il y avait quand même cet amour, quelque chose auquel elle croyait, je pense, et c'est ce qui l'a tenue jusqu'au bout de la garde à vue, jusqu'au bout, en fait, du procès.
Ouais, ça l'exaltait, parce qu'elle fait quand même un truc qui est absolument hallucinant. Offrir ce banc de musculation et cet haltère à son mari pour la fête des pères, c'est d'un cynisme hallucinant.
Ah oui, nous on a trouvé ça effectivement très 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 sordide comme position, je veux dire, enfin, pour monter ce scénario. Mais là où on a quand même un petit doute, enfin à mon époque, hein, je me souvienne, c'est que je suis pas sûre qu'elle était forcément au courant de toute la chose, comment elle allait se passer, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense qu'elle a été complice d'une partie, en fait, en disant, voilà, pour administrer le médicament, pour entraîner, pour faire des choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans la chambre? Et comment ça allait se passer? Je suis pas sûre qu'elle ait vraiment été présente au moment des faits. J'ai toujours eu ce doute là-dessus, parce que je pense qu'elle était quand même, elle avait peut-être pas forcément envie de voir les choses.
C'est-à-dire qu'il ne lui aurait pas parlé du scénario de Columbo? Il n'y aurait pas dit, on va lui offrir le banc de musculation, comme ça, on va simuler un accident cardiaque et l'haltère qui lui tombe sur la gorge?
Si vous me demandez mon avis, je pense que non, elle n'était pas forcément au courant de tout ce qu'il faisait lui, à côté.
sa sortie de prison, alors évidemment c'est quelque chose que vous ne voyez pas, et moi non plus, sa sortie de prison, le moment où elle retrouve ses deux enfants, c'est un moment bouleversant, évidemment ils lui en veulent énormément, elle a tué leur père et elle va se suicider chez l'un d'entre eux. Quelle tragédie.
Moi, quand j'ai appris ça, je vous cache pas, je n'étais plus donc à la police judiciaire. L'enquête, ça s'est bien passé bien après, bien évidemment. Mais j'avais suivi ce dossier et c'est vrai que je me suis dit comment on peut en arriver à tant de choses. Elle a été rongée par le remords et ses enfants ont quand même des stigmates, je crois, hein, dans leur vie aussi. Ça a été compliqué d'affronter tout ça et je pense qu'elle est arrivée à une dose de supportabilité, à mon avis, à laquelle elle ne pouvait plus faire face.
Vous célébrez cette année, Aurore Piana, vos 30 ans de police. J'ai envie de vous poser la question. Vous conseilleriez aujourd'hui à une jeune femme de se lancer dans une carrière d'officier dans la police comme ça? C'est une belle vie que vous avez eue ou vous n'en retenez que les contraintes?
Non, je crois que j'ai fait 15 ans en investigation judiciaire. Je pense que c'est quelque chose qui me tient au cœur. Je suis un policier avec vraiment une vocation intérieure, l'intime conviction que je suis à ma place. Je pense que c'est un très très beau métier. Certes, il y a des contraintes, c'est difficile, mais être au service du public et pouvoir rendre la justice de cette façon-là et au mieux qu'on peut, parfois avec les moyens qu'on a aussi ou la chance, je crois que moi je ne referai pas marche arrière en tous les cas.
Mais vous connaissez donc la part noire de l'homme. Est-ce que ça vous met en décalage avec vos amis qui ne sont pas policiers ou peut-être n'avez-vous que des amis policiers finalement?
Non, j'ai une vie avec des gens qui ne sont absolument pas dans la police et heureusement parce que je pense que on voit beaucoup de misère. On voit beaucoup de choses qui sont assez dramatiques, assez dures. Il faut pouvoir encaisser tout ça. Et je pense sincèrement que la vie à côté, on faut rester dans une forme de professionnalisme, je dirais, et préserver sa vie privée à côté. Et effectivement, avec d'autres professions, on est des fois un peu en décalage de ce qu'on voit. Mais je pense qu'on peut l'expliquer. Les gens, du coup, ont une perception autre de la société et du monde dans lequel on vit.
Les gens vous posent des questions le soir au dîner?
Ça arrive, mais j'ai quand même un devoir de réserve assez... Alors après, des affaires qui ont été jugées, on peut en parler, mais je pense qu'il faut les éveiller surtout aux choses à laquelle les gens peuvent être conduits, hein, parce que des fois, les assassinats sont des gestes de désespoir. Ce ne fait pas, vous voyez, je veux dire, les meurtres sont des gestes de désespoir passionnel. Donc il y a des choses, je pense, qu'il faut rester dans le monde tel qu'il est et l'approcher, le faire partager. Aussi, ça reste une vraie chance, je dirais.
Je vous remercie beaucoup, commissaire Piana, d'avoir accepté tant d'années après de partager votre expérience sur cette affaire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.